voici au rendez-vous du fil rouge qui court le long de ses rivages. Depuis que la lumière de la Grèce au 5e siècle a fait éclater l'invention de la démocratie.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie.
Si nous n'étions pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 36e numéro de Transhistorien. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission longue et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors au programme, nous remettrons d'abord les pendules à l'heure sur les origines grecques de Marseille. Puis Pierre nous proposera sa rubrique d'histoire par la connerie. De quoi est-ce que tu nous parleras ?
Eh bien, je vais parler de 4 Dimitri.
Très bien. Et enfin, je conclurai cette émission par mes 3 minutes 42 d'historiographie, ma rubrique qui a disparu pendant si longtemps des ondes de Transhistor, et je vous parlerai de Patrick Boucheron et de son histoire mondiale de la France.
Et on commence sans plus tarder avec un bond vers l'Antiquité. On s'intéresse ce soir à la fondation de Marseille par les Grecs à la fin du 7e siècle avant notre ère. À l'époque donc, on ne dit pas Marseille, mais Massalia.
Oui, et nous sommes en 600 avant Jésus-Christ plus précisément. Alors ce chiffre n'est pas tellement une estimation. On le trouve grâce à certaines sources antiques, comme Tirée de Tauroménium, un historien grec qui se vantait de pouvoir dater un événement à 3 mois près. Et 3 mois près, dans l'Antiquité, c'est vraiment archi précis. En fait, il semble qu'on puisse lui faire confiance, puisque les découvertes archéologiques ont confirmé cette estimation.
Et on va donc vous parler de la période qui va de la fondation de la ville en 600 jusqu'en 49, date de la prise de la ville par l'armée de César. Pendant tous ces siècles, Massalia reste une cité grecque et indépendante. À la même époque, les autres colonies grecques en Méditerranée tombent les unes après les autres sous la coupe des royaumes hellénistiques ou de Rome, notamment en Sicile et Italie du Sud, ce qui n'est pas le cas de Massalia.
Et d'ailleurs, c'est le moment de préciser pour nos auditeurs et auditrices ce qu'est une colonie. Alors, dans l'Antiquité, il s'agit d'une implantation de populations grecques issues d'une même cité, cité qu'on appelle la métropole. Beaucoup de fondations sont liées aux besoins commerciaux, par exemple pour récupérer des matières premières, notamment des métaux. D'autres sont des colonies de peuplement. Des habitants partent s'installer dans la colonie avec pour objectif de récupérer des terres agricoles et de les mettre en valeur. Ceux qui partent sont généralement ceux qui ne sont pas propriétaires dans la métropole. Or, ces fondations se trouvent généralement là où il n'y a pas d'état solide, c'est plus facile. Et généralement, les Grecs qui partent sont des hommes jeunes, beaux, célibataires, menés par un chef de guerre. Ils consultent un oracle, puis partent avec le feu sacré de la cité. Et quand ils arrivent, ce n'est généralement pas sur des terres totalement vierges. Du coup, les conflits sont fréquents, soit à cause de l'appropriation des terres, soit parce que les colons cherchent désespérément des femmes.
Eh oui. Alors du coup, qui est le peuple qui vit dans cette région ? On peut dire que ce sont des Gaulois ?
Oui. C'est d'ailleurs à l'occasion de la fondation de Marseille que la Gaule et ses habitants sont mentionnés pour la première fois par les historiens grecs. C'est pour ça qu'en ce moment, pas mal d'historiens privilégient la date de fondation de Marseille pour faire débuter l'histoire de France. Ça évite de choisir entre le soulèvement de Vercingétorix ou le baptême de Clovis.
Et du point de vue des Gaulois, du coup, comment se passe cette colonisation ?
Alors c'est plutôt intéressant de renverser les perspectives et de questionner la manière dont justement les Gaulois ont reçu les nouveaux venus. Est-ce qu'ils ont vu ça comme une intrusion ? Est-ce qu'ils ont vu ça comme de nouvelles perspectives commerciales ? Il faut savoir que les Grecs étaient déjà présents dans cette Méditerranée occidentale et pas du tout inconnus des Gaulois. Ils font du commerce avec la Gaule pour le compte des Étrusques. Ils trafiquent aussi l'étain espagnol dont ils ont besoin pour faire du bronze.
Et quand les Grecs arrivent à fonder Marseille, ils traitent avec un petit peuple gaulois, en particulier les Ségobriges. Ce sont les rivaux de leurs voisins ligures, installés à l'est du Rhône. Massalia est donc fondée juste à la frontière, sur l'embouchure du Rhône.
Oui, mais cette ville que les Grecs fondent est très très petite. C'est une cité essentiellement tournée vers la mer, spécialisée dans la production de vin dès le milieu du 6e siècle. Pour les échanges avec l'intérieur des terres, les Grecs délèguent le transport de leurs convois au peuple celte. C'est moins risqué, c'est moins coûteux. En échange, ils payent en produits méditerranéens de luxe et par ricochet, les Celtes ont dû développer à leur tour leur propre production pour payer ces produits de luxe. Ils exportent des métaux ou des esclaves notamment. L'archéologue Jean-Louis Bruno dit même qu'on a affaire à une première forme d'économie de marché. On n'a pas attendu le libéralisme actuel.
Exactement, mais revenons pour l'instant à Massalia elle-même. Les journalistes sportifs disent toujours « la cité phocéenne » quand ils parlent de Marseille. C'est vrai ça ? Les Grecs qui viennent de Phocée en Asie mineure ?
Alors la tradition antique dit que oui, mais le meilleur moyen de vérifier cette origine, c'est de s'intéresser au culte dans la ville. Troc Pompé parle d'un sanctuaire d'Athéna et Strabon d'un sanctuaire d'Artémis éphésienne et d'Apollon Delphinios. Ces trois cultes indiquent des liens avec plusieurs villes, Phocée parce qu'elle est placée sous la protection d'Athéna, Milet protégée par Apollon et Éphèse protégée par Artémis. Ces trois cités sont situées en Ionie, donc ça va. La seule difficulté est chronologique, on ne sait pas bien s'il y avait des Milésiens et des Éphésiens embarqués avec les Phocéens dès le début, ou si ce sont plutôt les Phocéens qui ont fondé Massalia avant d'être rejoints par des populations ioniennes obligées de fuir les Perses à partir de 545.
Il y en a d'ailleurs qui ont parlé de la fondation de Marseille le 9 avril dernier pendant un meeting. On l'écoute ?
Marseille ! Marseille insoumise pour toujours ! Marseille qui a commencé il y a 2600 ans parce qu'une femme d'ici a préféré à tous ses autres prétendants un immigré grec qui venait de débarquer. Si bien que leurs ancêtres, les Gaulois, avant de devenir les enfants des sans-culottes que nous sommes tous, ont écrit leur premier texte en grec, Madame Le Pen.
Alors c'était Jean-Luc Mélenchon à l'instant sur Transistor. Bon, alors, il exagère un petit peu parce que parler d'immigrés grecs, c'est abusif. Quand les Grecs font une colonie dans l'Antiquité, ils fondent leur propre cité et ne se mélangent pas trop avec les populations locales. Donc c'est assez anachronique de dire ça. Mais pour le reste de ce qu'il dit, il est pas mal renseigné en fait, le petit père Mélenchon. On va regarder ça d'un peu plus près.
Oui, parce qu'on a un récit de la fondation de Massalia parmi les sources littéraires.
Tout à fait. Il est en grande partie légendaire, comme c'est souvent le cas pour les cités grecques. Il est raconté par des auteurs bien plus tardifs, donc par Aristote au IVe siècle, puis par le gaulois Troc Pompée au Ier sous Auguste. Tu nous lis un petit extrait de Troc Pompée adapté par Justin, Pierre ?
Sous le règne de Tarquin, de jeunes Phocéens venus de l'Asie abordèrent à l'embouchure du Tibre et firent alliance avec les Romains. Puis, dirigeant leur vaisseau vers l'extrémité de la mer des Gaules, ils allèrent fonder Marseille, entre la Ligurie et la terre sauvage des Gaulois. L'expédition eut pour chef Simos et Protis, qui, voulant fonder une ville sur le territoire de Nannus, roi des Ségobriges, vinrent lui demander son amitié. Ce prince préparait alors les noces de sa fille Guptis, que devait épouser, selon l'usage de ses peuples, celui qu'elle-même choisirait au milieu du festin. Tous les prétendants assistaient au banquet, où furent aussi conviés les Grecs. Nannus, appelant alors sa fille, lui demande de présenter l'eau à l'époux qu'elle choisissait. La princesse, sans regarder les autres convives, se tourne vers les Grecs et va offrir l'eau à Protis, qui, d'étranger devenu gendre du roi, reçut de son beau-père le terrain où il voulait fonder une ville. Marseille fut ainsi élevée près de l'embouchure du Rhône, au fond d'un golfe et comme dans un recoin de la mer. Les Phocéens adoucirent la barbarie des Gaulois et leur enseignèrent une vie plus douce. Et tels furent les progrès des hommes et des choses qu'il semblait, non que la Grèce eût passé dans la Gaule, mais que la Gaule elle-même se fût transportée dans la Grèce.
Merci Pierre pour cette voix douce, c'était très beau.
L'installation des Phocéens se fait sans conflit, si l'on en croit le récit rapporté par Troc Pompée. Il suggère des alliances amicales et des mariages mixtes entre les nouveaux arrivants et les populations autochtones. Mais il faut prendre ce récit avec des pincettes, ne pas prendre au pied de la lettre ce mariage naturel et harmonieux entre la Gaule et la Grèce qu'on nous décrit. L'histoire de Troc Pompée, elle suit surtout le script stéréotypé des mythes de fondation, où les nouveaux habitants sont accueillis pacifiquement par les autochtones et reçoivent même une terre, comme ça, gratos.
Eh ouais, trop sympa. Alors pendant tout le VIe siècle, les tensions en fait sont réelles. Avec leurs navires de guerre à 50 rameurs, les Grecs pratiquent le commerce sur les côtes gauloises, mais aussi la piraterie, c'est pas bonne ambiance. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Strabon mentionne des conflits avec les Ibères, les Saliens, les Lygiens. Et puis il ne faut pas être dupe. Les Phocéens ne sont pas là pour civiliser gentiment la Gaule. L'objectif de la colonie, c'est clairement de faire du commerce maritime sur la route de l'argent espagnol et de l'étain en provenance de Bretagne. Pas de louer de gentils liens avec l'arrière-pays. Massalia est un point d'appui pour concurrencer les réseaux étrusques et phéniciens, et pas du tout une tentative pour helléniser la Gaule.
Mais pourtant Massalia se développe, elle reste bien grecque avec ses lois ioniennes affichées publiquement comme en métropole, et son régime oligarchique, fondé sur une assemblée de 600 citoyens d'après Strabon, lui permettent d'avoir justement ce côté grec. Elle crée aussi des petites cités autour d'elle, non ?
Oui, tout à fait, Pierre. Les Massaliotes ont implanté des colonies autour du golfe du Lion, colonies qui existent toujours. Nicaïa, actuellement Nice, Antipolis, soit Antibes, et Agathée, actuellement Agde.
Et cette ville portuaire est vite devenue une plaque tournante, une interface majeure entre Grecs et Gaulois.
Oui, c'est tout à fait ça. Massalia est au cœur des échanges entre ces deux espaces. C'est par son port que transite aussi l'argent d'Espagne. Les notables de la cité phocéenne font apporter de la céramique corinthienne corinthienne puis athénienne dans le courant du VIe siècle. Et donc ces céramiques décorées servent aux banquets pendant les fêtes civiques, encore ce côté grec. Parallèlement, les Massaliotes développent leur propre artisanat d'amphores pour le commerce du vin et la ville connaît une réussite économique en à peine un siècle. L'artisanat et le grand commerce sont très rentables, on fait construire un temple ionique, on frappe une monnaie d'argent, etc.
Donc si je comprends bien, la ville est florissante, ce qui implique, j'imagine, que la population augmente beaucoup et que la cité est obligée de s'étendre.
Ouais, c'est tout à fait ça. Au VIe siècle, elle connaît son premier essor, on en garde des traces archéologiques, les carrières d'argile tournent à plein régime et les archéologues estiment que 10 millions de briques ont pu y être produites, ce qui est quand même le signe d'un rythme de construction assez soutenu.
Exactement. Et les textes parlent aussi beaucoup de la simplicité, voire de l'austérité des habitants. Mais à partir du IVe siècle, leur mode de vie change, Marie. Il devient plus luxueux. La population, et en particulier bien sûr les plus riches, entendent se distinguer. C'est visible dans les nouvelles pratiques funéraires. On a retrouvé des grands enclos accueillant les cendres des riches familles avec des urnes en métal ou en céramique. C'est aussi la période des grands voyages maritimes de Pythéas. Il s'aventure jusqu'à la Baltique et aux îles britanniques, et même jusqu'à l'Ultima Thule, qui serait peut-être l'Islande, la Norvège ou même les îles Shetland.
Ouais, la question n'est pas bien tranchée. Et alors avec la voisine de Massalia, Rome, les relations sont plutôt bonnes. Les deux cités s'allient au IIIe siècle face à l'ennemi commun, Carthage. Pendant les guerres puniques, les Massaliotes ne participent pas directement au combat contre la ville, mais fournissent des navires et conseillent les Romains en matière de tactique navale. Les archéologues ont retrouvé notamment les loges du port qui servaient à protéger les bâtiments de guerre des Massaliotes.
Et malgré la rivalité avec des villes comme Carthage, Massalia quand même reste prospère.
Oui, au IIe siècle, elle a une nouvelle période de prospérité. La preuve, c'est la reconstruction des murailles de la ville au niveau de l'entrée principale. Donc pas n'importe où, c'est l'entrée qui est tournée vers Rome et donc vers l'Italie. On a aussi retrouvé des entrepôts qui datent de cette époque, à proximité de l'Agora, donc encore un signe de prospérité.
Et d'ailleurs, l'année 49, c'est un peu un tournant dans l'histoire de Marseille.
Ouais, complètement. On est en plein dans la guerre civile entre César et Pompée, donc les deux généraux romains qui veulent tous les deux se rendre maîtres de Rome et donc du monde romain. Et en fait, ce faisant, ils entraînent tout le monde romain dans leur guerre. Massalia choisit un camp, elle choisit celui de Pompée et bloque la route de l'Espagne. Et du coup, César la met au pas en l'attaquant par mer et par terre. Donc l'histoire, vous la connaissez, c'est César qui a gagné et Pompée qui a perdu. Donc Massalia capitule, elle a choisi le mauvais camp, elle perd son indépendance et est incorporée à la province de Narbonnaise.
Et c'est bien dommage, mais du coup, en conséquence, est-ce qu'elle a perdu son passé grec ?
Non, et ça c'est une vraie originalité de la cité de Marseille, de Massalia dans l'Antiquité. Elle a conservé pendant des siècles une petite particularité qui était qu'on y parlait grec. Et ça c'est attesté par Tite Live ou encore par l'épigraphie funéraire. Chose assez surprenante, au 5e siècle, donc après Jésus-Christ, on trouve encore des épitaphes en grec écrits à Marseille.
Et donc c'est l'histoire de Massalia, aujourd'hui Marseille. Et c'est tout pour ces pendules à l'heure et notre détour antique. Merci à Solène pour sa collaboration à cet épisode. On t'embrasse.
Ouais, on t'embrasse beaucoup, Solène.